Bah, j'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Amis auditeurs, on termine cette semaine ensemble en vous parlant d'un festival qu'on aime beaucoup. Il s'agit du festival Le Chaînon Manquant qui revient à Laval en septembre. Et donc, pour parler de cette prochaine édition, nous serons avec Kevin Douvillez de la direction artistique du festival dans quelques instants. Restez bien avec nous pour ce grand entretien du vendredi. Aujourd'hui, donc, bah, c'est le dernier jour de la semaine, le dernier jour de la semaine, donc juste avant le week-end. Mais c'est aussi ton dernier jour, Léane. Tu as été, on peut le dire, notre queen de la météo. Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va super, et toi, Margot?
Oui, ça va, un petit peu fatiguée en cette fin de semaine, mais ça va aller. Ça fait toujours plaisir de se retrouver tous ensemble. Donc on te retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour l'agenda culturel, puisqu'on est en fin de saison. Il va être assez court cet agenda aujourd'hui. Voilà, bienvenue à tous dans cette dernière émission de la semaine. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'entretien du jour. Donc bonjour Kevin Douvillez, tu es le co-directeur responsable de l'artistique sur le festival Le Chaînon Manquant, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Donc le festival cette année aura lieu du 17 au 22 septembre avec un prologue, comme on le connaît bien, le 14 septembre. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord à nos auditeurs peut-être Le Chaînon Manquant, qu'est-ce que c'est?
Alors le Chaînon, alors nous on réduit ça au Chaînon parce que c'est d'abord le Chaînon. Le Chaînon c'est un réseau de 400 salles de spectacle dans toute la France. Ces 400 salles de spectacle se sont données pour mission de repérer des projets sur les territoires, de les rendre visibles d'abord à une échelle régionale et ensuite à une échelle nationale. Alors comment ils font? Voilà, ils repèrent des projets autour de chez eux, ils les proposent à des collègues, ils organisent un événement qui s'appelle le Région en scène où ils vont proposer une quinzaine de projets un peu partout en France, dans chaque région. Et moi je vais faire le tour de tous ces 11 festivals. Au total, je vois 124 projets. Et autour de ces 124 projets, j'ai sélectionné avec eux 34 projets qu'on va montrer. Et on va associer ces 34 projets à une trentaine d'autres projets que je vais aller chercher ailleurs, à l'étranger, ou d'un repérage que je peux faire quotidiennement dans ma vie active. Et ça nous amène à présenter 70 spectacles à Laval pendant 6 jours. Voilà, on les présente en fait un peu partout dans la ville. Là, on a autour de 800 professionnels qui vont venir sur le festival pour voir. C'est bien évidemment ouvert au public. Et là les gens, c'est comme un marché en fait. En tout cas les professionnels vont venir faire un peu leur marché, voir ces spectacles, et ensuite nous on va aussi assurer, entre guillemets, c'est pas très joli mais c'est la réalité, le service après-vente. C'est-à-dire que après cette visibilité, un mois après le festival, on va caler des réunions un peu partout en France, et là sur la base d'un tarif unique pour tout le monde, de périodes qui ont été négociées aussi pour les adhérents du Chaînon, on va monter des tournées. Le but de tout ça, c'est vraiment de construire d'un côté des saisons chez nos adhérents, mais de l'autre côté aussi des tournées chez les artistes qu'on a invités.
Le festival est ancré en Mayenne, on a l'habitude de ce festival, on le visualise bien, mais ça a un impact important en fait pour la suite des projets qui sont proposés. En fait, ça peut lancer clairement
ça,
des...
Ouais, tout à fait, et puis ça a un impact national, c'est-à-dire que sur les 70 spectacles qu'on a présentés l'année dernière, on a généré 1207 représentations sur la saison prochaine dans toute la France. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que ce petit logo Chaînon, en fait, vous le retrouvez dans toutes les plaquettes, dans 400 plaquettes quasiment de saison en France. Et on est ici, les Lavallois ont la chance, on s'en rend pas compte, mais on a la chance quand même d'être aux avant-postes, c'est-à-dire d'être quasiment parfois les premiers à voir un spectacle qui va se jouer un peu partout en France dans les 2-3 années à venir.
Donc pour un tarif particulièrement accessible en plus.
Ah oui, bah on est de gratuit jusqu'à 12-15 euros. La plupart, le billet moyen, je crois, il est autour de 8 euros.
Oui, donc voilà, ça c'est important de le rappeler.
Il y a pas mal de projets qui sont aussi gratuits. Hein.
Ouais. Et donc c'est un festival aussi donc très soutenu par le territoire.
Oui, il y a une forte mobilisation. Alors d'abord de la ville de Laval, bien évidemment, de l'agglo, du département, de la région, qui a un soutien très fort. Ensuite, on est aussi aidé par l'État, par le ministère de la Culture directement, la DGCA, et après nos recettes propres, nos fonds propres, c'est-à-dire les adhésions des structures, la vente des spectacles, sur lequel on touche une partie aussi, enfin un tout petit pourcentage, mais qui correspond aussi au travail qu'on fournit de mise en en relation et de montage des tournées. Voilà, c'est comme ça que la chose se construit. Alors, ça reste une petite boutique, hein, ça reste très artisanal, mais mine de rien, au fur et à mesure, et puis surtout depuis que c'est à Laval, c'est devenu vraiment une machine de guerre parce que voilà, c'est efficient, c'est efficace. Quand les quand les professionnels viennent à Laval, ils hallucinent parce que c'est simple, c'est facile, tout est accessible à pied, on parcourt la ville facilement et on découvre entre 5, 6 et puis jusqu'à 8, 9 spectacles dans la journée. Quoi.
Justement, tu parlais tout à l'heure des professionnels qui venaient d'un petit peu partout. L'année dernière, que ce soit en termes de programmateurs ou même des spectacles programmés, ça pouvait venir de Belgique, il y avait aussi du Canada, si je ne dis pas de bêtises, cette année.
On a une sélection internationale. Mmh. Cette année, par exemple, on a effectivement des partenariats directs avec le gouvernement belge ou avec le gouvernement québécois. Donc là, on va accueillir 3-4 Canadiens et 4 Belges. On a aussi des projets qu'on va repérer ailleurs. On a, par exemple, un projet vénézuélien, un projet du Burkina Faso, un projet malien. On aura un projet colombien aussi, donc ça va un peu, voilà, un peu du monde entier. Après, c'est un peu ça le chaînon. L'idée, c'est de présenter un grand écart entre de l'extra-local, des artistes qui généralement n'ont pas dépassé la frontière de leur département ou de leur région en France, et des artistes étrangers qui ont été repérés ailleurs et qu'on va faire découvrir en fait au local.
Et alors justement, le festival donc, s'implante dans plusieurs lieux à Laval, mais pas seulement à Laval, puisque l'année dernière, le prologue, on avait pu aussi le découvrir dans des salles à Bonchamp, Saint-Berthevin, Changé.
Ouais, tout à fait. En fait, il faut voir les choses en deux temps. D'abord, il y a le prologue, qui est une journée de spectacle, comme un échauffement, c'est pour d'où le nom prologue, comme un échauffement, et c'est un événement qui a lieu dans tout le département, et justement en soutien, soutenu par le département en partie, par l'agglomération. Donc là, on s'amuse à partir à Loiron, à Cran, aux Angenoises, à Bonchamp, effectivement, et voilà, à faire un bon petit tour sur le territoire. Là, on aura 5 spectacles qui vont se succéder en fait dans cette journée du 14 septembre. Et ensuite, le festival, lui, a plutôt vocation de rester en fait à Laval Intramuros, avec une petite incartade historique et avec grand plaisir aussi à Changer. On commencera même le festival à Changer, aux Ondines et à l'Atelier des Arts Vivants, parce que c'est un plaisir de collaborer avec eux, et puis ils sont très très partisans et souteneurs du chaînon. L'essentiel se passe dans Laval.
Si on parle de ce prologue, justement, le prologue qui aura lieu donc le 14 septembre, quels sont ces spectacles programmés? Ce sont ceux de la dernière édition, peut-être, qui reviennent après avoir voyagé, ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Si, c'est un peu le principe. Alors, on est un peu souple, parce que le choix, il se fait. On n'impose pas ces spectacles-là, c'est vraiment un choix de nos partenaires. Mais parfois, s'ils n'ont pas forcément été séduits par des spectacles de la dernière édition, ils ont la possibilité d'aller piocher dans les autres éditions. En tout cas, ce samedi 14 septembre, on pourra découvrir 5 spectacles qui vont se succéder. On commencera avec Amant qui c'est un peu particulier parce que c'est un spectacle qui n'est pas encore passé au chaînon, qui passera la semaine d'après, mais qui a été repéré lors du repérage régional et qui sera présenté au siège social du Crédit Mutuel, notre partenaire du prologue. Ensuite, on enchaînera avec une petite pépite qui s'appelle Bob et moi, qui a eu un énorme carton au chaînon il y a 2 ans, puisqu'il a fait quasiment 80 représentations en une seule saison, et qui se jouera avec nos partenaires de Loiron. Ensuite, on ira se balader du côté de Saint-Berthevin pour découvrir le malade imaginaire d'une compagnie ligérienne, le collectif Citron. Là aussi, une jolie pépite d'un malade imaginaire un peu déconstruit, reconstruit et bien réinventé. Et puis, il faudra se partager en fin de journée. Certains choisiront plutôt l'humour pour aller voir Yann Marguet, qui vient d'exploser. Alors, on l'avait présenté l'année dernière et il vient d'exploser cette année avec notamment une forte présence sur Quotidien, et qu'on pourra découvrir aux Angenoises à Bonchamp, ou aller plutôt vers de la musique et de la musique réjouissante avec un groupe qui s'appelle Tempo Tempo, de l'afrobeat, qu'on pourra découvrir à Cran.
Ok, donc une très belle mise en bouche, si je puis dire. Et alors après, donc à partir du 17 septembre, commence le Chaînon Manquant. Tu le disais tout à l'heure, tu as vu plus de 120 spectacles cette année.
Alors j'ai vu 120 spectacles en fait au niveau régional. Après, total, j'en ai plutôt vu 500-600 en fait sur ma saison.
C'est toujours impressionnant.
C'est une mission, un sacerdoce.
Et alors sur l'identité peut-être de cette nouvelle programmation, est-ce qu'elle a des particularités, des thématiques qui reviennent?
Alors, ce qui est drôle, c'est que cette programmation, c'est une fois qu'elle est faite, qu'on se rend compte un peu des tendances. Cette année, alors nous, on a une tendance un peu formelle, c'est que on a beaucoup de spectacles de danse qui viennent de la région, ce qui est pas forcément, c'est plutôt justement une discipline que je vais chercher moi et qui est rarement issue des régions. Là, on a plein de super projets qui surgissent des régions, aussi parce que probablement les créateurs, avec le Covid, se sont un peu déplacés des centres et sont allés un peu plus créer en région. Donc je pense que c'est une raison de ce déplacement. Moi, en parallèle, j'avais aussi repéré d'autres projets de danse, notamment des danses participatives, en tout cas des projets qui amènent les gens à entrer dans la danse, justement, ce qui va être le cas avec un bal fou des années folles, la compagnie David Roland qui va nous proposer un bal tel qu'on vivait dans les années, dans l'entre-deux-guerres, et ou un autre, alors complètement l'inverse, ou alors le pendant en fait actuel avec un spectacle qui s'appelle Superbe, où quatre femmes, hommes, on ne sait pas, et peu importe, en tout cas, vont nous entrer, nous amener dans une espèce de danse collective qui est pas tout à fait un bal, qui est une expérience collective et joyeuse à vivre ensemble. Voilà, donc il y a effectivement cette danse qui est un peu plus forte que les années précédentes, avec des vraies grosses propositions. Non, ce que j'ai ressenti en fait, c'est alors je sais pas si ça vient de moi ou ça vient d'une envie collective, mais il y a plus cette idée de troupe. Il y a 4-5 projets qui sont vraiment construits par des troupes, pas par un chorégraphe ou un créateur qui dit bah moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, etc., mais qui sont des créations collectives de 7, 8, 10 personnes.
Kevin, on continue ensemble dans quelques instants sur la programmation de la prochaine édition du festival Le Chaînon Manquant, mais maintenant je propose une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, Léane?
En ce mois des fiertés, j'ai choisi Amour Censure d'Oshi, qu'elle a écrite après avoir subi des attaques homophobes. Cette chanson est un rappel à la bienveillance.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part. Au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sans sûr.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme. ce n'est absolument pas pour des homosexuels.
Il n'y a que de la place.
De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage.
Et puis alors, avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
On est de retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors Kevin, tu nous parlais tout à l'heure de cette programmation teintée plutôt par des créations faites par des troupes.
Il y a par exemple un spectacle qui va ouvrir le chaînon qui s'appelle Kermesse, qui est le fruit d'une troupe. C'est vraiment des comédiens qui se sont rencontrés au conservatoire, ont décidé de s'associer pour créer. Et Ponte, c'est leur deuxième spectacle. Et c'est dingue. En fait, c'est un spectacle... C'est un petit pari que je tente, puisque ce spectacle, l'objet, c'est d'essayer d'amener les gens à faire la queue leu-leu à la fin du spectacle. Et ils se prennent la tête pendant tout le spectacle pour essayer de savoir comment ils peuvent générer une queue leu-leu à la fin du spectacle. Donc je vous dirai pas s'ils réussissent ou pas, à vous de voir et à vous de participer ou non, en fait, etc. Mais voilà, et on retrouve l'esprit de un peu des Monty Python, des Inconnus ou des Robin des Bois, ou même du Splendide. Vous voyez ce délire de troupe. Et ben, on va retrouver la même chose avec un cabaret transgenre. Alors là aussi, pratique un peu de l'entre-deux-guerres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs inspirés de l'entre-deux-guerres. Peut-être que c'est le contexte politique, le contexte actuel qui nous amène là-dedans. Mais en tout cas, un super. Voilà, là aussi, c'est une troupe. Alors, c'est une troupe de différents artistes. On va retrouver une chanteuse comme Carmen Maevega, mais on va retrouver aussi la grosse Bertha qui a gagné une émission de télé-réalité. Je ne l'ai pas vue, mais je ou d'autres encore qui vont.
C'est Drag Race,
qui se réunissent pour autour de la chanson. Et c'est vraiment le vrai cabaret de chanson tel qu'on le connaissait dans ces années-là. Voilà, ça c'est une tendance assez forte. Qu'est-ce qui caractérise aussi cette édition? Une certaine étrangeté. C'est vrai que je me rendais pas compte, mais maintenant que je parle un peu de ces spectacles, je me rends compte que ils sont assez bizarres. Il y en a un par exemple, ça s'appelle la Symphonie des Chauves-Souris, dont le principe va être, à la tombée de la nuit au Jardin de la Périne, de communiquer avec les chauves-souris. C'est-à-dire ils ont inventé un système qui transforme les ultrasons des chauves-souris en son. Et donc, on commence à retrouver, on les entend, il arrive à communiquer avec lui. Alors, c'est assez drôle, c'est aussi, mais c'est très scientifique quand même, voilà, c'est une forme d'expérience. Alors, il y a un autre spectacle, je pense, qui va faire un peu le buzz ou qui va un peu faire parler de lui, je pense, au chaînon. C'est les basketteuses de Bamako. Une sorte de chorégraphe jongleur qui s'appelle Thomas Guérino a réuni sur scène 5 basketteuses maliennes qui vont, le temps d'une heure, chanter et danser tout en jouant au basket. Et c'est juste une performance de dingue et quelque chose de très très intense et de très fort à voir. Il y a un autre spectacle qui s'appelle Musique de table, qui peut paraître un peu savant et un peu... c'est de la musique contemporaine. C'est une composition qui existe de Thierry Demey qui a composé pour des mains. C'est-à-dire, oui, c'est des mains. Alors là, à la radio, c'est compliqué de le montrer, mais oui. C'est des mains en fait qui tapent sur des et font des chorégraphies de mains, etc. Et c'est visuel, c'est sonore, c'est improbable et c'est fascinant. Voilà,
ça nous fait penser à la main de la famille Adams. Exactement. Elle porte un nom même, je crois.
La chose. Il y a cet esprit-là. En fait, il y a plein de trucs un peu chelou comme.
Ouais,
c'est parce que le monde est chelou. Est-ce que c'est parce que c'est nous qui, dans notre sélection, on est un peu, je sais pas, mais il y a effectivement cette étrangeté. Et après. Il y a aussi, et ça j'en suis fier et j'en suis content, il y a aussi des spectacles vraiment d'engagement. J'en ai deux en tête, assez fort. Il y en a un qui me paraît essentiel et d'utilité publique. C'est Toutes Causes Confondues. C'est un spectacle qui va décrire, retranscrire le procès de Bobigny en 1972 où Gisèle Halimi a réussi à sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'autoriser l'avortement. Et quand on sait que l'avortement est remis en question dans certains pays, c'est nécessaire de repenser pourquoi, en fait. Ça nous semblait évident, en fait, de légaliser l'avortement.
Et un autre spectacle... Et à quel point ça a été un combat pour obtenir ce droit.
Complètement,
ouais.
Complètement. Et un autre spectacle qui s'appelle L'abolition des privilèges, où un comédien va nous faire vivre la nuit où tout a basculé, en fait, parce que la révolution française, pour nous, c'est la prise de la Bastille, c'est des débats sans fin, c'est l'exécution du roi, etc. Mais à un moment donné, tout s'est passé en une nuit aussi. Les députés ont décidé de tous bords, hein, le clergé comme les nobles, etc., ont décidé à un moment donné de s'accorder sur le fait qu'on abandonnait les privilèges. Et en fait, c'est un spectacle qui peut faire écho à notre société actuelle et de se dire, bah, si aujourd'hui on décidait d'abandonner les privilèges, ça serait quel privilège? Qui a des privilèges aujourd'hui dans cette société française? Et ce spectacle a vraiment l'intelligence de poser aussi cette question.
Justement, dans le contexte des législatives anticipées, notre émission veut aussi tendre son micro, plutôt la société civile, pour comprendre les enjeux et accueillir aussi les impressions des différents secteurs. Le réseau Chaînon a justement lui aussi souhaité communiquer concernant les différents enjeux qui concernent le secteur culturel pour...
Inviter les gens à participer aux élections législatives.
Et souligner la vigilance qu'il fallait avoir vis-à-vis des libertés de création, de diffusion, notamment dans le domaine de la culture.
Ouais, bon, ça, vu le contexte, ça nous semblait incontournable et essentiel de participer, de donner un peu notre point de vue, enfin en tout cas de participer à cet élan collectif, de dire oui, là maintenant il faut se mobiliser, il faut participer. Il n'y a pas une consigne de vote spécifiquement, même si on sait que certains bords ne privilégieront pas forcément la culture qu'on défend. Mais c'est important de participer là. Là c'est crucial. On va se retrouver à confronter à un choix de société. Et ben il va falloir l'assumer, ce choix-là, d'une manière ou d'une autre. Et si on n'y a pas participé, c'est la meilleure manière de le subir et d'abandonner derrière.
Oui, concrètement, un gouvernement qui ne souhaite pas investir dans la culture, c'est un gouvernement qui fait le choix d'une toute nouvelle société.
C'est déjà de prime abord, c'est des emplois qui seront perdus, c'est des gens qui travaillent, etc. Et puis après, derrière, je pense que c'est effectivement une éducation, c'est une manière de voir le monde. La culture, elle sert à différentes choses. Elle sert à s'évader, elle sert à se divertir, mais elle sert aussi à s'éduquer, elle sert aussi à mieux se comporter en société. Elle sert à se développer des valeurs qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Si on perd ces valeurs-là, ben on vivra moins bien ensemble.
Poser des questions, remettre en question également, c'est l'essence de la culture. En tout cas, c'est important d'entendre aussi le point de vue des acteurs culturels. Le Chaînon, c'est aussi une équipe de bénévoles.
Oh là, une belle équipe de bénévoles.
Une belle équipe de bénévoles.
Bah, ils étaient plus de 200, ils étaient 230, je crois, l'année dernière. On les a vus, là, il y a quelques jours. On leur a présenté en exclusivité la programmation, quand même. Et normal qu'ils aient quelques avantages. C'est vraiment un plaisir de les voir. C'est vraiment une communauté. C'est une vraie communauté, parce que c'est les mêmes, à peu près les mêmes bénévoles. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis au Chaînon. Et voilà, c'est à peu près les mêmes depuis 10 ans. Donc, on se voit vieillir.
Oui.
Mais je les sentais, voilà, ils étaient donc on avait ce traditionnel présentation de la programmation en avant-première, ils étaient avides de savoir comment ça enchaînait derrière avec un temps d'échange, de partage. Voilà, on est content de se retrouver, ils sont contents de se retrouver, parce qu'il y a nous retrouver, mais aussi se retrouver eux-mêmes, parce que bien souvent dans leurs témoignages, ils ne se voient pas forcément le reste de l'année, mais ils se retrouvent en fait au moment du Chaînon. Et on est content d'avoir généré ça, de générer ça.
Et alors, il est déjà temps peut-être, ou encore temps de vous contacter pour justement rejoindre potentiellement cette équipe pour la prochaine édition.
Oui, bien sûr. Oh oui,
il y a toujours besoin.
Même au dernier moment. Après, on n'est pas en recherche absolument pas de besoin, parce que c'est vrai que il y a une adhésion naturelle, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de composer. Et plus on a de bénévoles, plus mieux on peut aménager les temps d'intervention, et que ce soit agréable pour les uns et pour les autres.
Et comment vous définirez tous ces spectacles, en fait, le festival en trois mots, par exemple? J'ai cru comprendre qu'il y avait de l'engagement, de l'étrangeté.
Ouais, en tout cas sur cette édition. Après, en trois mots, c'est simplement, c'est un écosystème solidaire et équitable.
Okay.
Qui va permettre en fait à des artistes d'être vus et de circuler ensuite sur tout le territoire.
D'accord. Merci.
Ouais, un peu plus de trois mots, mais...
Oui, mais c'est bien d'expliquer.
En même temps, c'est un système complexe, riche et dense, donc c'est dur de...
Ouais, c'est ça.
Là, c'est pas évident, ouais. Et donc, je le rappelle, le Festival du Chaînon Manquant est à découvrir du 17 au 22 septembre et il ne faut surtout pas manquer le prologue qui est le premier temps finalement de ce festival qui aura lieu le 14 septembre. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Non mais avec grand plaisir, surtout pour l'autre radio.
Et alors, un tout petit agenda culturel pour aujourd'hui, alors Léane.
Alors, Emlyr Cela Raconte revient comme chaque mois au Théâtre de la Rotonde, mercredi prochain à 17h, avec des lectures animées par Simon Roguet. De quoi enchanter parents comme enfants. Ensuite, mercredi 3 juillet à 18h et jeudi 4 juillet à 16h15, découvrez le spectacle La Mare où l'on se mire, au quartier des Pommerais, place des Grands Carrés, puis dans le quartier Saint-Nicolas, au parvis de la maison de quartier. Inspiré du célèbre conte d'Anderson, Le vilain petit canard, il raconte l'histoire de Norbert, qui rêve de monter un opéra mais qui n'a qu'une maquette à présenter au public accompagné d'un cortège de canards qui jouent les perroquets. Et enfin, le carré à Château-Gontier, c'est Gontierama qui se poursuit jusqu'au 25 août. N'hésitez pas à retrouver la programmation sur leur site ou celui de la ville de Château-Gontier.
Et voilà, l'AJT du local s'arrête ici. Merci à Kevin Douvillès d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi Léane pour ces 2 semaines avec moi dans cette émission. C'était vraiment un plaisir. Alors, qu'est-ce qui est au programme ce soir sur nos ondes ?
Ce soir à 19h, c'est le moment pour se déhancher et évacuer toutes les tensions de la semaine avec le Dance Hall Club.
On a aussi une émission spéciale aujourd'hui.
Et oui, à l'occasion du 10e anniversaire d'un Saint-Jean-été, les bénévoles de l'Autre Radio animent une émission en direct depuis le festival. Vous y retrouverez des reportages, des interviews exclusives, des jeux et plein d'autres animations.
Et alors je crois que ça commence à 20h, 2h d'émission jusqu'à 22h en direct du festival. Et alors ce week-end ?
Demain à 13h, vous aurez 30 minutes pour découvrir un groupe de rock avec Rock Dreams. Et à 14h, l'Autre Radio s'invite au Festival des Arts de Rue, la Chalibaude, pour une émission spéciale en direct et en public jusqu'à 16h.
Et alors, dimanche ?
À 11h, retrouvez l'émission Sport Épique avec des interviews, des quiz et des chroniques sur le thème du sport. Et parce qu'on n'en finit jamais de s'incruster dans les festivals, à 14h, retrouvez notre émission spéciale Pop au Parc, animée par des jeunes du collège de Gretenbouer.
Merci Léane, et peu importe à quel point nos émissions sont captivantes, n'oubliez pas, amis auditeuristes, d'aller voter. Nous on se retrouve lundi pour la dernière semaine de l'AJT du local de cette saison radiophonique. D'ici là, allez voter, ne vous trompez pas dans les urnes, c'est une manière essentielle de faire le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.